Voilà, Pierre-Yves Fallon, mais qui est-ce? Je me suis quand même posé la question. J'ai été faire ma petite enquête, j'ai été sur Internet, j'ai tapé Pierre-Yves Fallon, c'est incroyable tout ce qu'on apprend sur les gens.
C'est très dangereux d'ailleurs.
Alors, est-ce que tout est vrai? Si vous êtes d'accord, je vais juste dire ce que j'ai trouvé, vous pourrez corriger, compléter, donner des informations supplémentaires. Alors, voilà, ce que j'ai trouvé, la première chose, née en 1955.
Une très bonne
année. On ne va pas s'étendre là. Formation de photographe.
Oui.
Il y a plus de 30 ans de ministère, en passant par l'armée du salut, différents ministères pastoraux dans différentes églises, enseignement d'adultes, et qu'actuellement, vous êtes responsable du ministère biblique à la Ligue pour la lecture de la Bible.
C'est exact.
Vous voyez, Internet. Peut-être que son nom vous dit quelque chose parce qu'il a écrit de nombreux livres. Et je crois aussi que sa vie l'a conduit par différents déserts. Est-ce qu'il y a... c'est juste.
Oui, c'est à peu près ça. C'est terrible en fait parce que on résume une vie en très peu de mots. Merci Monsieur Google. Mais c'est vrai que les choses sont à peu près exactes. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce temps de culte avec vous ce matin. C'est vrai que notre milieu d'origine, à mon épouse et à moi-même, c'est l'armée du salut, où nous avons vécu un ministère ensemble de formation d'adultes. Avant, j'ai été pendant plusieurs années au service de rédaction. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais enfin voilà, c'est comme ça, j'ai écrit un certain nombre de livres, dont le 10e, j'ose le préciser, va être présenté au Salon du Livre le 1er mai de cette année, à 14h. Et il a pour titre « Deux ou trois choses à faire en arrivant au ciel ». Voilà. Donc si vous ne savez pas que faire, si vous êtes angoissé à l'idée de votre éternité, je vous propose un livre de réflexion à prendre avec vous. Voilà, pour vous préparer à l'éternité. J'ai fait un apprentissage de photographe à Lausanne, ce qui fait de moi un Lausannois, même si j'ai jamais, en tout cas dans ma jeunesse, habité Lausanne. J'habitais à Renan, j'étais un banlieusard, et j'ai fait mon apprentissage de photographe à la Schnaudebourg, dans le beau quartier de la Schnaudebourg, et je garde de ces années des souvenirs plus que lumineux. J'ai deux enfants, je dis « je » parce que ils sont nés de ma première épouse qui est décédée. J'ai deux enfants, un fils Nicolas qui habite à Chavannes et qui est astrophysicien et docteur en physique, et une fille Natacha qui est éducatrice de la petite enfance et qui est mariée à la Chaux-de-Fonds avec un percepteur d'impôts. Voilà. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. C'est un garçon admirable. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte dans le livre de la Genèse. On m'a demandé de parler sur le chemin en marche vers Pâques avec Abraham. Donc nous allons lire un texte dans la Genèse au chapitre 12. Nous allons lire les 9 premiers versets du chapitre 12 de la Genèse. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. De là, il gagna la montagne, à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il y éleva un autel pour le Seigneur et invoqua le Seigneur par son nom. Puis, d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Néguev. Quand on pense aux personnages bibliques, on a parfois l'impression que ce sont des gens sans grande difficulté, que ce sont des gens qui ont une stature presque parfaite, des gens qui sont là et qui sont des rocs sur lesquels le Seigneur va pouvoir construire sa démarche spirituelle. C'est intéressant de voir que Abraham, quand il entame son chemin, quand il est là avec et qu'il reçoit de Dieu cet ordre incroyable, « Pars, quitte ton pays et va là où je t'enverrai », eh bien, Abraham est un homme avec un vécu, est un homme blessé quelque part. Et les versets, la fin des versets du chapitre 11 nous donne deux informations sur le vécu d'Abraham en nous disant que c'est un homme qui a passé par le deuil. Il a perdu son frère. Personnellement, j'ai perdu ma sœur il y a pas tout à fait 2 ans d'un cancer. Un long cheminement de deuil, un long cheminement d'agonie aussi, un long accompagnement et toutes ces questions qui sont là. Et je peux comprendre ce que vit Abraham quand il est là et qu'il pense à ce frère décédé. Je peux le comprendre. Il nous est dit aussi que Sarai, son épouse, était stérile. Et ça évoque quelque chose, nous l'avons vu ce matin, n'est-ce pas? Ça évoque quelque chose, cette attente désespérée et désespérante de l'enfant à naître. Et chaque mois, ce nouveau deuil. Chaque mois, cette obligation d'une nouvelle espérance. Et c'est à ce couple perturbé, à ce couple qui vit des choses difficiles, des choses compliquées, à ce couple que nous pourrions appeler cabossé, que Dieu s'adresse et que Dieu met en marche. Et Dieu va dire à Abraham, « Va pour toi, deviens qui tu es, mets-toi en marche, ne reste pas dans ce que tu vis, ne reste pas sur tes échecs, ne reste pas dans tes difficultés, ne te contente pas de cela, ne limite pas ta vie à cela. » Si facilement nous nous replions sur nous-mêmes, nous disons « la vie a été compliquée, nous devenons des victimes ». On aime bien aujourd'hui dans notre société être des victimes. Hein ? Voilà, nous sommes des victimes. Mes parents ne m'ont pas compris, la société ne m'a pas compris, mon patron ne me comprend pas. Mon patron, c'est Michel Sigrist. Vous connaissez Michel Sigrist? Ok. Mon patron ne me comprend pas. Il ne faut pas lui dire que j'ai dit ça à Villard, hein, parce que j'aurais des problèmes. J'ai un patron en or. Et c'est une chance et une grâce de travailler à la Ligue dans cet environnement. Mais parfois, c'est vrai, nous nous replions sur nous-mêmes et nous disons, voilà, la vie est compliquée, la vie a été trop compliquée. Et alors on aimerait quelque part être un peu comme dans ces jeux vidéo où on recommence, où on repart à zéro. On a encore 5 ou 6 vies, on en a raté une, c'est pas très grave, on peut recommencer autre chose. Dieu nous dit pas, vous pouvez recommencer votre vie. Dieu nous dit, vous pouvez continuer votre vie, de l'endroit où vous êtes, avec ce que vous êtes, sans le nier, mais en le prenant avec vous. Vous pouvez vous mettre en marche dans une dynamique créative, dans une dynamique de risque aussi, dans une dynamique de déséquilibre, parce que la marche, vous le savez bien, c'est un déséquilibre. Hein, vous êtes d'accord? Quand on marche, on part d'une position stable pour se mettre pendant quelques instants dans une position de déséquilibre, de risque, avant de poser à nouveau son pied. Alors bien sûr, pour la plupart d'entre nous, nous maîtrisons ça avec énormément de talent, parce qu'il y a des années et des années et des années, des décennies que nous pratiquons la marche. Bien sûr, parmi nous, nous avons un frère qui est un humble, quelqu'un de faible, pour lequel nous voulons prier d'une façon particulière, un frère qui maîtrise mal la marche et qui prend des risques tous les jours et qui parfois perd dans ces risques et il en porte les stigmates et nous sommes extrêmement compatissants avec lui, mais nous portons un regard un tout petit peu supérieur parce que nous, nous maîtrisons bien nos déséquilibres intérieurs. Quand Dieu dit à Abraham, mets-toi en marche, il lui dit, prends le risque du déséquilibre, prends le risque, aie cette audace. Prends le risque d'aller ailleurs. Prends le risque de te frotter à des choses que tu ne connais pas. De sortir de ce que tu sais, de ce que tu sais faire, de ce que tu maîtrises pour entrer dans un autre domaine, dans un autre univers. Et peut-être bien que c'est ça, finalement, la terre promise. Ce pays que nous ne connaissons pas. Ce pays où nous n'avons pas de repères. Ce pays où nous devons compter non pas sur nous-mêmes, sur notre expérience, sur ce que nous savons, et même pour nous les chrétiens évangéliques, sur nos convictions. Ce pays où nous devons compter sur Dieu et sur Dieu seul. Abraham se met en marche. Et à un moment donné, il nous est dit qu'il arrive dans la terre promise. Et j'ai toujours été très interpellé par cette dynamique-là, cette dimension-là. Je me suis toujours dit, comment est-ce qu'Abraham a su qu'il était arrivé ? Vous savez, je ne crois pas qu'il y avait quelque part un écriteau comme dans le Far West, vous savez, « Bienvenue en terre promise, son saloon, son shérif, son cimetière. » Je ne crois pas qu'il y avait ce genre de choses. Hein. Mais à un moment donné, Abraham a su qu'il était en terre promise, qu'il était arrivé. Et il nous est dit qu'il a dressé un autel. Il a dressé un autel et il a appelé Dieu par son nom. Il a appelé Dieu par son nom. On ne sait pas quel nom il a donné à Dieu. Ce serait intéressant et c'est une des choses que j'ai mis sur mon petit calepin à faire en arrivant au ciel, c'est aller voir Abraham et lui dire « Par quel nom est-ce que tu as appelé Dieu ?» quand tu es arrivé en terre promise. Et la question que nous pouvons nous poser à nous-mêmes, dans notre intimité, c'est quel nom est-ce que nous donnons à Dieu quand nous prions ? Est-ce que nous l'appelons Seigneur ? Est-ce que nous l'appelons Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées ? Mon Dieu ? Très personnel, privé, à moi ? Père, quel nom est-ce que nous donnons à Dieu ? Cela dit beaucoup de choses sur notre conception de Dieu, sur notre relation à Dieu, sur l'espérance que nous posons en Dieu aussi. Comment est-ce que nous appelons Dieu ? Pour imaginer qu'Abraham arrivait en terre promise, eh bien, il est arrivé. Hein ? Et on aimerait bien... Moi, quand j'étais adolescent, j'avais la chance d'avoir souvent... Mes parents étaient aussi dans le ministère et nous avions souvent à notre table des grands prédicateurs. Moi, j'ai toujours aimé les grands prédicateurs parce que quand on était enfant, la télé prenait moins de place et c'est vrai qu'on se battait pour aller écouter certains grands prédicateurs et j'ai eu la chance, en tant qu'enfant, d'entendre des gens vraiment qui avaient le don de la prédication. Et pour moi, ces gens, ils étaient arrivés. Vous voyez ? Ils étaient arrivés dans une espèce de statut de spiritualité évidente où tout était clair, où il n'y avait plus de doutes, plus de questions, plus de remises en question. Toute la vie spirituelle et tous leurs problèmes personnels étaient gérés. Ils étaient en terre promise. Alors, je ne sais pas si je ne suis pas arrivé en terre promise, mais moi j'ai l'impression, enfin je ne suis pas non plus, j'ai encore quelques années avant d'être un grand prédicateur, donc j'ai le temps. La Bible nous dit une chose intéressante, c'est qu'Abraham a dressé un autel et elle nous dit où il l'a dressé, entre Bethel et Haï. Et ces deux mots ont éveillé ma curiosité, parce que voyez-vous, Bethel, à l'époque d'Abraham, ça s'appelle Luz. Il faudra attendre le petit-fils d'Abraham pour que le mot Bethel soit inventé. Jusque-là, cette ville s'appelle Luz Et si l'auteur du texte biblique nous dit que Abraham a dressé son autel entre Bethel d'un côté et Haï d'un autre côté, c'est qu'il veut nous faire en quelque sorte un clin d'œil spirituel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et puis Haï, c'est la ruine. Haï, c'est la grande défaite du peuple d'Israël au moment de la conquête. Vous rappelez, on apprenait ça à l'école du dimanche. Jéricho, la victoire donnée par Dieu, et puis ensuite, cette grande désobéissance. On prend des biens qui devaient être donnés au Seigneur, on part à la guerre tout seul, parce qu'on sait faire, et on se casse la figure. Et on voit ce patriarche Abraham, qui arrivait en terre promise, dresse son autel avec d'un côté Bethel, la maison de Dieu, la confiance, la compréhension du plan de Dieu, la communion avec le Seigneur, la vie équilibrée et paisible, la relation d'amour et d'espérance en un Dieu qui ne faillit jamais. Et puis de l'autre côté, la ruine, la désobéissance, l'échec. Et j'aime cette vision équilibrée, dirait. On pourrait faire mieux, on pourrait supprimer Haï. Oui, mais nous sommes des humains. C'est une bonne nouvelle. Vous savez, une bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que nous sommes des humains et que Dieu a voulu que nous soyons des humains. Si Dieu avait voulu que nous soyons des dieux, il nous aurait fait des dieux. Si Dieu avait voulu qu'on soit des anges, il aurait fait de nous des anges. Dieu nous a créés humains. Entre Bethel, capable de comprendre la grandeur de Dieu, sa sainteté, son amour et sa tendresse, d'un côté, et de l'autre côté, capable aussi de désobéissance, capable d'erreur, capable de chemin de perdition. Nous sommes dans cet équilibre instable entre Bethel et Haï. Et là, entre ces deux pôles, entre ces deux tensions que Paul exprimera si bien aussi dans ses épîtres, entre ces deux tensions, nous dressons un autel et nous appelons Dieu par son nom. C'est toute notre condition d'humain. C'est toute notre condition de chrétien. C'est toute notre condition de chrétien. Une autre question qui m'a profondément interpellé par rapport à l'arrivée de notre ami Abraham en terre promise, c'est pourquoi il a si mal choisi son lieu de résidence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai été élevé à la campagne. J'ai gardé des vaches, pas des moutons, j'ai gardé des vaches. Et je sais que le mieux quand on a des animaux, c'est de les mettre dans des endroits où il y a de l'herbe et où il y a de l'eau. Vous êtes d'accord? On simplifie grandement la vie. Si vous mettez des animaux à un endroit où il n'y a pas de nourriture et pas d'eau, il faut tout leur amener ou chercher beaucoup. Je ne sais pas, vous êtes des citadins, je ne sais pas si ça vous parle. Là, vous visualisez ces bêtes comme ça. Bien. Abraham vient de passer à côté d'un endroit incroyable qui s'appelle la Galilée. Tous ceux qui ont été en Israël visualisent la Galilée. En Galilée, il y a de l'herbe. Ouais, il y avait plus peut-être avant que maintenant, mais il y a de l'eau, il y a un lac. Il y a possibilité, c'est l'endroit idéal, surtout si on va un peu du côté de l'Hermon, c'est l'endroit idéal pour élever des bêtes. Or, le texte nous dit que notre ami Abraham s'en va d'étape en étape vers le Négev, vers le désert du Négev. Pour un berger, c'est pour le moins étonnant. Et c'est vrai que parfois nous rêvons notre vie comme un immense jardin. Nous avons l'impression que le bonheur, ça doit être quelque chose de facile, où tout est là, où il y a l'abondance, où il n'y a qu'à tendre la main. Et puis même, on ne devrait presque pas devoir tendre la main. Ça devrait même être encore plus simple que ça. Ça devrait venir directement dans la bouche. Toute cette abondance, toute cette facilité, toute cette richesse, une vie parfaite. Et on a l'impression que le projet de Dieu, c'est cela, une vie parfaite, où tout est abondant. Et Abraham nous dit autre chose. Abraham nous dit, la terre promise, c'est aller d'étape en étape vers le désert. c'est-à-dire c'est se dépouiller peu à peu de tout ce que nous pensons être nos richesses pour découvrir quelle est la richesse de Dieu. Abraham et Sarah vivront ce drame terrible de la stérilité, d'autant plus terrible que toute la bénédiction de Dieu doit passer par la naissance obligatoire de cet enfant. Et ce sera une immense question spirituelle. Comment est-ce que Dieu peut me bénir alors que je suis incapable de donner naissance à un enfant? Comment est-ce que ce miracle peut se passer? Et parfois nous nous heurtons comme ça dans notre vie à des contresens terribles. Nous croyons des choses et dans notre réalité de vie, nous vivons autre chose. Et nous disons, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu t'es trompé quelque part. Il y a 15 ans, je dirigeais une série de rencontres de culte dans une communauté et on m'avait demandé de parler sur ce thème dangereux. Je l'ai appris après. La vie est belle avec Jésus. La vie est belle avec Jésus. Et pendant toute la semaine, nous avions une série de rencontres comme cela. Et le soir, beaucoup de jeunes se sont avancés, ont donné leur vie à Jésus. C'était vraiment un moment magnifique, une semaine magnifique, dans la communion avec le Seigneur. Et on voyait le Seigneur à l'œuvre, et on voyait des jeunes qui étaient transformés par la vie de Christ. La vie est belle avec Jésus. C'était magnifique. Le samedi soir, on a encore prié avec des jeunes jusque tard le soir. On est rentré à Berne, où on habitait, pour passer la nuit et revenir le lendemain matin pour le dernier culte de cette série. Et pendant la nuit, à 5 heures du matin, ma femme est décédée, alors qu'elle était en parfaite santé. La vie est belle avec Jésus. Est-ce vrai ? Est-ce possible? Est-ce imaginable? Est-ce acceptable? Comment est-ce que je peux conjuguer ce que j'ai dit, prêché, proclamé, cru au plus profond de moi avec ce que je suis en train de vivre? Comment? Est-ce qu'on essaye de vivre un espèce de grand écart incroyable où on sépare totalement le spirituel de la réalité de nos vies? Est-ce qu'il faut faire semblant? Ou est-ce qu'il faut tout rejeter en disant « mais finalement tout ça c'est juste des mots, mais ça n'existe pas, ce n'est pas vrai ?» La vie peut-elle être belle avec Jésus, même au travers du deuil, même au travers de la désespérance ? Imaginons Abraham qui monte Morija avec son fils Isaac qu'il tient par la main, ce fils qu'il va donner, ce fils qu'il va sacrifier. Et nous posons la question à Abraham alors qu'il gravit ce chemin. Est-ce que la vie peut être belle? Est-ce que c'est cela la terre promise que Dieu t'a offert, a mis devant toi? Est-ce que tu ne t'es pas trompé quelque part de chemin? Et Abraham qui continue de gravir cette colline parce qu'il sait autre chose. Il sait que Dieu ne se trompe pas. Il sait que le bonheur ne se définit pas avec nos mots d'humain, mais que le bonheur, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que lui seul peut nous confier. C'est quelque chose qui ne peut venir que de lui. Et même si nos routes sont parfois des routes de souffrance, ce sont des routes qui deviennent belles quand elles sont illuminées par la grâce de Dieu. Jésus a cette parole terrible quand il nous dit « Prenez votre croix et suivez-moi ». Et alors on se raidit par rapport à ça. On dit, mais moi, prendre ma croix, moi, mourir à moi-même, moi, renoncer, non, Seigneur, ce n'est pas cela que je veux. Moi, je veux une vie d'épanouissement, je veux une vie où on me donne, je veux une vie où je me développe, je veux une vie où je m'enrichis, je veux une vie où plus, plus, plus. Et le Seigneur dit, prends ta croix et suis-moi. Et nous disons, Seigneur, je ne comprends pas. Abraham est monté à Morija. Il a fait les gestes du sacrifice et il a découvert que Dieu est un Dieu qui donne. Il a découvert que Dieu est un Dieu qui donne. Si nous prenons notre croix, Nous suivrons Jésus jusqu'à Golgotha, mais nous suivrons Jésus plus loin. Nous le suivrons jusqu'à la résurrection. Voyez-vous, je crois qu'on ne peut pas véritablement vivre la résurrection si on n'a pas suivi Jésus jusque-là. Jusque-là. Ce moment de brisement, ce moment de mort à soi-même, ce moment où je dis « Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne peux plus saisir. Je ne peux plus comprendre quel est ton plan. » Mais où je le reçois et où il se passe ce miracle incroyable de découvrir que Dieu est un Dieu qui donne. Dieu est un Dieu qui donne. Dieu est un Dieu de vie. Dieu est un Dieu de résurrection. Est-ce que nous avons vécu le matin de Pâques dans notre vie? Est-ce que nous l'avons vécu? Non pas intellectuellement, non pas ecclésialement, mais personnellement. Est-ce que nous avons été dans cette situation où nous disons, Seigneur, maintenant, il n'y a plus que l'illumination de ta grâce dans ma vie. Sans cela, je ne comprends pas. Je suis arrivé au bout de moi-même. J'ai été au bout de ce chemin que tu m'as tracé. Et maintenant, j'ai besoin que tu l'ouvres pour moi et que tu traces une voie qui va au-delà de ce que je sais faire, au-delà de ce que je peux comprendre, au-delà de ce que je maîtrise, une voie qui est la voie de ta grâce. Abraham a dit, le Seigneur pourvoit. Nous pouvons dire, le Seigneur donne. Ou pour utiliser un langage encore plus évangélique, le Seigneur est vivant. Le Seigneur donne la vie, la vraie vie, la vie qui a une dimension éternelle, qui ne se finit jamais, une vie incroyable, une vie heureuse et belle, parce qu'elle n'est pas construite uniquement sur notre terreau humain et sur le fruit de nos efforts, mais parce qu'elle est un cadeau de Dieu, parce qu'elle est un cadeau de Dieu. Pour cela, il faut oser parfois aller dans le désert, aller loin dans le désert, car c'est dans le désert que Dieu nous révèle sa vie. Amen. Amen.